RFI, minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous. Une demi-heure d'information consacrée à l'actualité française, c'est 24h en France.
Christophe Paget.
À la une, la riposte de la France. L'Algérie avait donné 48 heures à 12 fonctionnaires français pour quitter le territoire. Et bien ce soir, la France fait de même. Paris expulse 12 agents algériens et rappelle dans le même temps son ambassadeur. Les détails en début de journal avec Pierre Firsion. Des prisons attaquées la nuit dernière entre incendies de véhicules et tirs à la Kalachnikov. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Nous entendrons le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Nous irons aussi à Nanterre où se trouve une des prisons attaquées. Une conférence nationale sur les finances publiques ce matin à Matignon, après l'annonce du gouvernement. Il faut économiser 40 milliards d'euros pour le prochain budget. À la sortie, les syndicats s'inquiètent du peu de dialogue de cette première rencontre. Et puis football, le PSG a perdu face à Aston Villa en match retour de la Ligue des Champions 3-2, mais se qualifie quand même pour la demi-finale.
RFI.
Dans une douzaine de minutes, nous irons à la rencontre de personnes handicapées qui nous en diront plus sur la décision du gouvernement français de rembourser les fauteuils roulants à 100%, et ce à partir du 1er décembre, mais beaucoup de questions se posent encore. Et puis le journal de l'Outre-mer, à La Réunion, la campagne gratuite de vaccination contre le chikungunya a été lancée il y a 8 jours, mais ça ne se bouscule pas vraiment pour se faire vacciner, nous dira Benoît Ferrand.
24 heures en France.
Et la crise qui reprend de plus belle entre Paris et Alger. Dimanche, après l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien, l'Algérie avait déclaré persona non grata 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur. Ils avaient 48 heures pour quitter le territoire. Eh bien, ce soir, l'Élysée annonce l'expulsion de 12 agents algériens. Pierre Firsion.
Des agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France. Paris décide également de rappeler pour consultation son ambassadeur à Alger, Stéphane Romaté. Deux gestes marquants, alors que selon une source diplomatique française citée par l'AFP, les 12 fonctionnaires français expulsés par l'Algérie sont actuellement en route pour la France. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales, estime la présidence française dans un communiqué. L'Élysée juge injustifiée et incompréhensible l'expulsion des agents français, une décision qui, je cite, « méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires ». Une référence à l'arrestation et à la mise en examen vendredi pour enlèvement et séquestration d'un agent consulaire algérien. En écho à ces annonces, Jean-Noël Barrot écrit sur le réseau social X « Les autorités algériennes ont choisi l'escalade, nous répliquons comme annoncé » et le ministre français des Affaires étrangères d'ajouter « Le dialogue toujours, mais pas à sens unique ». Fin de citation. L'Élysée a beau appeler Alger à faire preuve de responsabilité pour reprendre le dialogue, le déplacement du chef de la diplomatie française à Alger il y a 9 jours semble bien loin. Ce nouveau coup de froid entre Paris et Alger pourrait laisser des traces profondes.
Et alors que la crise diplomatique s'aggrave, les deux filles de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison en Algérie, appellent le président Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite, dans une tribune publiée ce mardi sur le site du quotidien Le Figaro. La nuit dernière, plusieurs prisons ont essuyé des attaques. Incendie de véhicules du personnel pénitentiaire à Villepinte, Aix-Lyune, Réau, Valence ou encore Nîmes. À Toulon, on a même tiré à la Kalachnikov sur une des portes de la prison. Toulon, où s'est rendu cet après-midi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, il s'est réjoui que le parquet national antiterroriste ait ouvert une enquête.
Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Je ne sais pas si ces faits ont un rapport avec la lutte extrêmement forte que nous menons quotidiennement, je l'ai dit, contre le désordre en prison, et dont j'ai rappelé dès mon arrivée à la chancellerie qu'il devait se terminer, mais aussi avec le régime carcéral nouveau que les parlementaires très largement ont adopté, et je les en remercie, qui vise comme en Italie à mettre fin au fait que dans des prisons françaises, on continue à organiser son trafic. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les deux prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendues publiques, mais les faits d'aujourd'hui montrent que, sans doute, le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs pour nous intimider. Ces intimidations ne marchent pas. La République ne reculera pas.
De son côté, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a demandé au préfet de renforcer sans délai la protection des agents et des établissements. Parmi les établissements pénitentiaires visés, la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre, où la voiture d'un gardien a été brûlée. Tanita Fallet s'est rendue sur place. Elle a rencontré des membres du personnel pénitentiaire.
La prison se situe à quelques minutes à pied seulement du centre-ville. Devant le grand portail ouvert, une dizaine de policiers récoltent des restes calcinés au sol. Samir est gardien de prison et secrétaire local de l'UFAP, un des principaux syndicats pénitentiaires. Il observe la scène, le visage crispé.
On voit des traces de brûlés au sol. Là, il y a la police judiciaire actuellement qui fait ses investigations.
Dans la nuit, deux individus cagoulés ont mis le feu à une voiture appartenant à un gardien de la prison. Au sol, des inscriptions DDPF qui signifieraient droit des prisonniers français. Samir est en colère. Samir, ce n'est pas son vrai nom. C'est comme ça qu'on l'appelle à la prison, car il préfère la discrétion, preuve de son sentiment d'insécurité.
Tout le monde sait où on travaille. On peut être suivi. Moi, à titre personnel, je l'ai été deux fois. Ça, c'est un coup en plus et on se demande jusqu'où l'escalade va aller.
Il demande plus de sécurité et des peines exemplaires pour les auteurs de ces attaques, mais aussi l'amélioration des conditions de détention.
Le surveillant et le détenu sont liés. Si nos conditions sont compliquées, ça va être compliqué pour eux. Si c'est plus facile pour eux, ça sera plus facile pour nous.
L'année dernière, la prison de Nanterre accueillait plus de 1000 prisonniers pour 592 places, d'après le barreau d'Île-de-France.
Un reportage signé Tanita Fallet. On le sait, depuis ce week-end, le gouvernement veut économiser 40 milliards d'euros pour le budget 2026. À la clé, de larges coupes budgétaires. Mais une question reste posée, qui va payer ? Alors, pour entamer un dialogue qui s'annonce douloureux, le Premier ministre avait convoqué ce mardi à Matignon une conférence nationale sur les finances publiques, avec une cinquantaine de parties prenantes, parlementaires, syndicats, associations d'élus, organismes de la sécurité sociale et plusieurs ministres. Après la réunion, à laquelle il ne participait pas, et graphique à l'appui, François Bayrou a énuméré les faiblesses de la France qui, je cite, « manque de moyens pour financer ses priorités parce qu'elle ne produit pas assez et ne travaille pas assez par rapport à ses voisins européens ». Pour Sophie Binet, la leader de la CGT, le problème est tout autre. Elle dénonce un manque de dialogue et estime que le gouvernement fait fausse route.
On voit bien que l'opération de ce matin est une opération de communication pour installer un climat anxiogène et pour pouvoir installer l'idée qu'il faudrait encore une fois que les salariés fassent des sacrifices. J'ai alerté solennellement ce matin le ministre de l'économie sur le fait que ça ne serait pas possible de nous demander encore une fois de passer à la caisse, non seulement parce que ça n'est pas juste, nous avons déjà payé, mais en plus parce que face aux crises auxquelles notre pays est confronté, notre meilleure protection, c'est notre modèle social. En 2008, en 2020 et aujourd'hui, nous sommes bien contents d'avoir une sécurité sociale. Celles et ceux qui, il y a quelques jours, nous disaient que la solution en matière de retraite, c'était la capitalisation, sont bien silencieux aujourd'hui, alors que les retraités américains sont en panique parce qu'ils n'ont plus de retraite. Donc ce que j'ai redit au ministre et au gouvernement, c'est que s'il y a une urgence, c'est de répondre à l'urgence sociale, en commençant par abroger la réforme des retraites.
Sophie Binet, la leader de la CGT, au micro d'Anne Verdaguet. Le conseil départemental des Charentes, dans le centre-ouest de la France, va être mis sous tutelle. C'est une situation très rare pour une collectivité de cette taille, 350 000 habitants. Mais ce mardi, le conseil n'a pas réussi à voter son budget 2025. Le mois dernier, le budget avait déjà été retoqué du fait de l'abstention d'un groupe de 6 élus de la majorité de gauche qui avait fait scission. Et ce soir, à 20h, le quorum n'avait toujours pas été atteint. Pour que l'Assemblée se tienne, ni l'opposition ni le groupe sécessionniste n'étaient venus siéger. C'est maintenant le préfet qui doit prendre la main sur les finances départementales. Quelques 80 étudiants serbes sont arrivés ce mardi soir à Strasbourg après un périple à vélo de plus de 1400 kilomètres. Objectif dénoncé dans cette ville qui accueille plusieurs institutions européennes, la corruption dans leur pays. La Serbie est secouée depuis plusieurs mois par des manifestations anticorruption. Et les 80 cyclistes ont été accueillis par les acclamations de plusieurs centaines de leurs concitoyens venus les soutenir. Après la chef de file du Rassemblement National, après son président, c'est au tour de son porte-parole. Pendant la campagne présidentielle de 2022, Andrea Kotarak a cumulé des fonctions dans le parti d'extrême droite et son poste d'assistant d'eurodéputé, sans demander l'autorisation du Parlement européen. Ces révélations de Mediapart, confirmées par l'AFP, interviennent alors que Marine Le Pen a été condamnée en première instance pour, justement, Détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Charlotte Urien-Tomaca.
Les règles du Parlement européen sont claires. Pour qu'un assistant parlementaire participe à une campagne électorale, une procédure d'autorisation doit avoir été mise en œuvre et l'activité doit être réalisée à titre strictement personnel et en dehors des heures de travail. Mais selon Mediapart, de novembre 2021 à décembre 2022, Andrea Cottarac était à la fois assistant du député européen Hervé Juvin et porte-parole de Marine Le Pen, puis du parti. Et pour ce faire, celui qui occupe aujourd'hui le poste de collaborateur parlementaire de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale n'a déposé que 4 jours de congé pendant l'entre-deux-tours de la campagne et n'a pas déposé de demande d'autorisation pour cumuler ses fonctions. Des révélations qui interviennent dans un contexte compliqué pour le parti, alors que Marine Le Pen a déjà été condamnée le 31 mars pour avoir contourné les règles sur l'emploi d'assistants au Parlement européen. De quoi affaiblir la chef de file du RN qui espère voir ses 5 ans d'inéligibilité suspendus en appel, même si le parti d'extrême droite semble déjà préparer la présidentielle 2027 sans Marine Le Pen. Celle-ci devrait en effet laisser la place à Jordan Bardella si sa condamnation était confirmée à l'été 2026.
En 5 ans, grâce à vous, Notre-Dame de Paris fut reconstruite, rebâtie, plus belle encore qu'elle n'était. Ce mardi, 6 ans jour pour jour, après l'incendie qui avait ravagé la cathédrale, Emmanuel Macron a décoré les artisans de sa reconstruction. Philippe Jost, qui dirige l'établissement public pour sa restauration, les deux architectes Rémi Fromont et Philippe Villeneuve, et puis près de 100 fonctionnaires, entrepreneurs ou artisans, représentatifs des 2000 personnes qui ont participé à la reconstruction de la cathédrale. Football, le PSG a perdu face à Aston Villa, 3-2 en quart de finale retour de la Ligue des Champions, mais ça aurait pu être pire, puisque grâce à sa victoire au match aller, 3-1, le club parisien va en demi-finale. C'est sa deuxième en 2 ans. Pour ce qui est du match de ce soir, les joueurs de la capitale l'avaient pourtant bien commencé avec Hakimi qui ouvre le score, avant que Nuno Mendes ne double la mise. Mais ensuite, Aston Villa a marqué 3 buts. L'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, n'a pas apprécié cette performance. Il faudra élever le niveau au prochain tour.
Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. C'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi, mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile, surtout en deuxième mi-temps où on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau, à 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes, juste devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match, donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales.
En demi-finale, le PSG affrontera Arsenal ou le Real Madrid de Kylian Mbappé. RFI minuit 12 à Paris.
24 heures en France, Christophe Paget.
Et nous avons maintenant rendez-vous avec la réalisatrice française Nora Philippe. Son documentaire Girls for Tomorrow est disponible gratuitement sur la plateforme arte.tv jusqu'au 8 mai 2025. Girls for Tomorrow suit pendant 8 ans 4 jeunes américaines étudiantes à New York à l'université féminine du Barnard College. C'est une période de construction pour ces jeunes femmes entre lutte féministe et antiraciste, MeToo et Black Lives Matter, l'épidémie du Covid et puis les 2 élections de Donald Trump. Nora Philippe est interrogée par Isabelle Chenu.
Cher Anta, Laila, Evie et Talia, vous avez vu Trump gagner pour la deuxième fois et pour la deuxième fois, des candidates perdre face à lui. Vous savez le pouvoir de destruction que ce second mandat signifie pour la planète entière.
Bonjour Nora Philippe.
Bonjour Isabelle Chenu.
Vous êtes la documentariste de Girls for Tomorrow, que l'on peut visionner en ce moment même sur arte.tv. Vous avez filmé durant 8 ans la vie de 4 jeunes femmes, des étudiantes de l'université de femmes de Barnard College à New York.
Nous étions en 2015, sous Obama encore à l'époque, et je venais d'avoir une petite fille et je cherchais des contacts, des inspirations féministes. Je vivais à New York à l'époque et il y a cette tradition états-unienne qui n'existe pas de par chez nous, qui sont donc, ça s'appelle les Women's Colleges, ce sont des universités qui sont réservées aux femmes et qui sont pour la plupart encore aujourd'hui des lieux de féminisme très, très développé, très divers, hein, très pluriel, et aussi évidemment de progressisme. Et Barnard College, en y allant, en découvrant des étudiantes là-bas, je me suis rendu compte que, alors qu'elles étaient toutes jeunes, elles avaient 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire 12, 13 ans de moins que moi à l'époque, eh bien, elles étaient déjà dans un niveau de réflexion féministe et politique absolument incroyable, aussi sur des questions de climat, des questions d'antiracisme, des questions politiques, qui ont forcé mon admiration, je dois dire, qui m'ont bouleversée et qui m'ont inspirée. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de les suivre dans un film. On peut avoir des engagements et défendre des causes quand on est tout jeune. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite quand on est, entre guillemets, dans la vie adulte et dans la vie réelle?
Votre documentaire, Nora Philippe, mêle l'intime de ces quatre jeunes femmes et en même temps une période historique où il se passe plein de choses.
Certaines avaient, entre guillemets, pressenti déjà, du haut de leurs 18-19 ans, que, par exemple, les questions de climat allaient avoir une incidence, en fait, sur la fragilisation de la démocratie, que le capitalisme forcené des États-Unis allait effectivement devenir une dystopie. Ça, c'était des choses qu'elles formulaient déjà en 2015-2016 et qui se sont manifestées dans la réalité.
C'est un documentaire, Nora Philippe, Girls for Tomorrow, qui est très émouvant.
Je suis très contente et touchée que vous parliez d'émotion. C'était, je crois, vraiment le leitmotiv et le cœur du projet aussi. Je crois que ce que je retiens d'elle, c'est beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de sagesse. Et dans leur parcours, sur 10 années, on voit certaines qui, en fait, professionnalisent leurs engagements dans des associations ou dans des organisations. D'autres qui, au contraire, choisissent des voies de réparation intime, individuelle, en fait, et pas forcément des luttes collectives. Donc, chacune prend un chemin différent. Il reste que toutes continuent de croire en leurs idées, de les défendre, et elles les incarnent dans leur vie privée, en fait, dans leur vie réelle, dans leur choix intime, dans leur choix amoureux, dans leur manière de vivre.
Vous êtes toujours en relation avec Lila, Ivy, Anta, Talia?
Oui. Non seulement je suis en relation avec elles, mais on a déjà commencé à tourner certaines nouvelles séquences. Elles sont, je dois dire, très bouleversées par l'ère fasciste états-unienne qu'elles sont en train de vivre. Elles sont aussi à des moments charnières de leur vie. Elles ont désormais 30 ans, donc il y a de nouveaux chapitres qui s'ouvrent. Je ne vais pas en parler, parce que là, pour le moment, c'est leur vie privée. Ce n'est pas dans un film, donc on ne le partage pas encore. Je réfléchis donc déjà au deuxième chapitre, parce que c'était un engagement que j'avais marqué, de continuer jusqu'en 2045.
Merci beaucoup, Nora Philippe. Votre documentaire Girls for Tomorrow est disponible sur la plateforme arte.tv.
Jusqu'au 8 mai. Voilà, et gratuitement, c'est la force du service public.
Merci.
La réalisatrice Nora Philippe était interrogée par Isabelle Chenu.
Reportage France.
Retour en France. On va parler fauteuil roulant. Jusqu'ici, pour se procurer un fauteuil roulant, les personnes handicapées devaient suivre un véritable parcours du combattant, payer des factures salées, qui pour certains les amenaient à lancer des cagnottes en ligne. Mais à partir du 1er décembre prochain, c'est une annonce du gouvernement français, les fauteuils roulants seront remboursés à 100% par la Sécurité sociale. D'autant que pour pouvoir se procurer un fauteuil roulant en cas de mobilité réduite ou de situation de handicap, une prescription médicale est nécessaire. Près d'1 million de Français sont concernés. Certains fauteuils roulants peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Laurence Théo est allée à la rencontre de personnes en fauteuil roulant. Reportage.
Ils sont amis, fous de sport et en situation de handicap. Voilà pour les points communs. Mais ils ne vivent pas la même situation et ne possèdent pas le même fauteuil roulant. Bruno est assis sur le fauteuil sécu, comme il dit.
Il est à prix sécu 3008. De base, il est payé par la sécu, mais après, si je veux des options, je les paye de ma poche. Comme les phares, par exemple. Vous voyez, j'ai pas pris de phares parce que c'est plus cher.
Le handicap de Jérôme n'est pas compatible avec ce fauteuil standard. Seule sa main droite lui permet de réaliser quelques gestes limités. Le jeune homme a besoin d'un fauteuil électrique sophistiqué.
Il coûte plus de 16 000 euros. Donc c'est un fauteuil qui me permet de me monter en hauteur, de m'allonger.
Faire les transferts.
Faire les transferts, exactement. De pouvoir me déplacer en toute autonomie.
Jusqu'à aujourd'hui, faire une demande de fauteuil n'était pas une mince affaire.
C'est ça, il faut faire une demande. Et encore une fois, il y a des inégalités. Donc les dossiers peuvent prendre entre 6 mois et 2 ans.
Un fauteuil roulant coûte entre 500 et 10 000 euros. Un prix qui augmente pour les versions électriques entre 3 400 et 30 000 euros. Or aujourd'hui, l'assurance maladie n'en rembourse qu'une partie, jusqu'à 5 200 euros maximum. Le fauteuil de Jérôme coûte 16 000 euros, une grosse somme qu'il a fallu payer.
Heureusement que je travaille parce que voilà, il y a une mutuelle qui me permet de pouvoir compenser et de pouvoir m'acheter ce fauteuil. Sans mon travail et sans cette mutuelle, ça aurait été très compliqué. J'aurais dû aller chercher des financements privés.
L'annonce que les fauteuils roulants soient remboursés intégralement dès le 1er décembre est une bonne nouvelle, mais suscite des interrogations car il s'agit de modèles figurant sur une liste bien précise. Paul, entraîneur du club de foot fauteuil de Nanterre.
Au premier abord, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, on veut plus de détails. Parce que d'accord, on rembourse le fauteuil, mais est-ce qu'on rembourse tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va avec?
Et ça peut coûter cher ce qui va avec?
Alors oui, ça peut faire doubler le prix.
Bien qu'elle est dans son fauteuil, Mohamed se pose une autre question.
Dans chaque fauteuil aussi, il peut y avoir des problèmes, que ce soit des problèmes de roue à changer, problèmes de batterie, etc. etc. Et aussi, j'aimerais savoir si le gouvernement a pris ça en compte. Parce que moi, par exemple, là, j'ai eu un problème de batterie. Et après 6 mois seulement, les batteries n'ont plus la garantie. Donc si après 7 mois, il y a un problème de batterie, c'est de sa poche et ça coûte minimum 500 euros.
Bruno, Mohamed et Jérôme sont pressés de rejoindre le gymnase pour un match de foot-fauteuil. Les fauteuils de sport devraient être également remboursés.
Un reportage signé Laurence Théo, RFI minuit 20 à Paris, 2h20 à Saint-Denis de La Réunion.
Le journal de l'Outre-mer.
La campagne gratuite de vaccination contre le chikungunya a été lancée il y a une semaine à La Réunion, mais force est de constater que les candidats ne se bousculent pas vraiment au portillon. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir, et c'est sans doute regrettable car l'épidémie, elle, est en train, comme on dit, de prendre ses aises. 20 ans après les deux années terribles de 2005 et 2006, cette fois-ci, le virus semble, il est vrai, un peu moins virulent, mais il reste toujours aussi contagieux. Écoutez le directeur de l'Agence régionale de santé de La Réunion, Gérard Cotelon. Il est au micro de Priscilla Etève.
Nous sommes sur les trois jours aux alentours de 2200 personnes qui ont retiré un vaccin. C'est pas mal. Il faut continuer à le faire. Nous, nous faisons entrer 50 000 autres doses. Il y a le ministre de la Santé qui sera là probablement dans quelques jours. Il en parlera. La mobilisation doit être complète parce qu'on voit que même si les médecins nous disent que la virulence est moins forte que 2005-2006, on a quand même des cas sévères. On a déjà eu 2 morts. On a des enfants qui sont touchés, des femmes enceintes qui sont touchées. Et donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Cette lutte contre les gîtes larvaires, c'est contre le chik, mais c'est aussi contre la dengue qui continue à circuler à Babouï. Et puis, les dépôts sauvages d'ordures, c'est la lutte contre la leptospirose.
Un chiffre maintenant sur les 9 dossiers actuellement examinés par la cour d'assises de Papeete en Polynésie. 7, soit plus des 2/3, concernent des viols et dans leur grande majorité des viols au sein du milieu familial. Des chiffres alarmants, forcément alarmants. Miri Toumatariri.
616 victimes de violences sexuelles en 2024, un chiffre en hausse de près de 7% par rapport à l'an dernier. Un chiffre glaçant qui reflète une réalité bien connue des magistrats, explique Jacques Louvier, avocat général à la cour d'appel.
Il y a une surdélinquance en la matière par rapport à la métropole, puisqu'il y a le double de viols de mineurs en Polynésie française qu'en métropole.
Selon le parquet de Papeete, près de 80% des affaires criminelles jugées aux assises concernent des viols. Et parmi les victimes, des enfants, souvent des filles, parfois des garçons, qui subissent en silence des années durant. Le huis clos des îles, l'éloignement géographique, la pression familiale, autant de facteurs qui rendent ces drames encore plus invisibles. Mais à force de procès, la parole commence à se libérer, explique Wendy Otomimi, responsable du pôle d'aide aux victimes à la page.
Au fil des années, il y a eu une facilitation en fait de la révélation des faits. Les gens ont plus accès à ces informations-là et peuvent aller plus facilement déposer plainte, le cas échéant.
Un enchaînement d'affaires qui révèle une fois de plus que derrière les paysages de cartes postales, la Polynésie porte aussi ses blessures les plus profondes. Ce qui a poussé une équipe de chercheurs à se pencher sur le sujet de l'inceste au Fénois. Lucie Hervouette, sociologue.
Ces recherches, elles ont pour objectif déjà de combattre un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur les violences sexuelles, comme le fait que ça concerne que certains milieux sociaux, par exemple. Ça peut être aussi de montrer aux familles que le fait de garder ça secret, ça fait plus de mal que de bien.
Aux assises, 5 autres affaires pour viol doivent être jugées dans les semaines à venir. Quant au septuagénaire jugé pour viol incestueux sur 3 jeunes filles de sa famille, il a été condamné à 18 ans de prison ferme.
Retour dans l'océan Indien pour terminer avec cette initiative qui ne sera certainement pas inutile à Mayotte. Des fournitures scolaires récoltées auprès de généreux donateurs seront distribuées ce mercredi dans un certain nombre d'établissements du département 101. Opération menée par l'association Solidarité Laïque et par Youssouf Abdallah. Il a été joint par Abdou Kafé Mohamed.
On va commencer cette opération à l'école de Kawini Village. Donc en fait, nous avons levé de fonds, étant donné nos moyens qui sont assez limités. Donc nous avons voulu toucher tous les élèves, l'ensemble des secteurs plutôt de Mayotte. Donc nous avons choisi prendre une école primaire et collège plutôt ou lycée dans chaque secteur, dans les 5 secteurs où il y a les intercommunalités. Donc pour Mamoudzou, ça sera Kawini Village et le collège K2, où nous allons distribuer ces colis aux élèves de 6e et 5e. Et pour l'école primaire, ça sera les élèves du CP jusqu'au CM2. Mais nous allons distribuer un stock de matériel qui sera mis à la disposition de la direction de chaque établissement qui a été choisi. Et c'est à eux de gérer le stock en fonction des besoins. Car nous savons qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans les besoins, des familles, d'autres peut-être pas, un peu moins. Mais ça sera une gestion qui sera faite au niveau de chaque établissement.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée à vous.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et avec Caroline Paré et son invité, on s'intéresse ce soir à l'accompagnement des personnes âgées par leurs enfants.
Docteur Bruno Kendo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin gériatre en unité de gériatrie aiguë à orientation neuropsychogériatrique au CHU Charlefoix Ivry-sur-Seine en région parisienne. De quelle manière les proches peuvent-ils contribuer à préserver la santé d'un parent âgé ?
Bien, la première chose, c'est de se baser sur les trois piliers du bien vieillir. La première chose, c'est la nutrition. Il faut se dire que lorsqu'on prend en âge, eh bien, les besoins en nutrition ne diminuent pas, ils augmentent même un peu. Il faut aussi continuer l'activité physique et même la reprendre à tout âge et puis faire très attention à son sommeil.
Quand on parle des risques du vieillissement, le vieillissement c'est un phénomène naturel, c'est quoi ces risques particuliers ?
Le vieillissement en lui-même, il ne mène pas à une incapacité, il ne mène pas à une perte de qualité de vie ou à la dépendance. Donc en fait le vieillissement c'est quelque chose de très progressif. Mais il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, eh bien, il y a des pathologies qui deviennent plus fréquentes, des pathologies qui sont liées à l'âge, et c'est ces pathologies à laquelle il faut faire attention.
Merci docteur Okendo, vous avez signé le livre « Mes parents vieillissent » aux éditions Vuibert. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va s'intéresser à la haine, violence, mépris, vengeance, dans les images, dans les discours, les actions, sur les réseaux sociaux. Assiste-t-on à une épidémie, une banalisation de comportements et de propos haineux ? Peut-on prévenir ces élans agressifs et cette colère ? Bref, la haine, est-ce que ça se soigne ? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré. C'est la fin de 24 heures en France. Merci à Valentin Vaner, à la réalisation et à Charlotte Derouin, à la rédaction en chef. Quel talent! Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Avant cela, comme tous les soirs, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones recule de 156 points, ce qui le reconduit à 40 369. L'indice du Nasdaq cède 8 petits points et atteint 16 823. Bank of America et Citigroup ajoutent leur nom à la liste des grandes banques américaines dont les résultats trimestriels se révèlent meilleurs que prévu. La volatilité des marchés a permis à ces établissements de réaliser de bonnes opérations de trading. Alors en temps normal, les bons résultats des géants de la finance de janvier à mars doperaient la tendance des marchés d'actions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, car les investisseurs vivent dans l'angoisse de la guerre commerciale et de son impact sur l'inflation et la croissance. La nouvelle selon laquelle Donald Trump envisage d'assouplir les droits de douane qui pénaliseraient General Motors, Ford et Stellantis, qui assemblent les mêmes automobiles à la fois aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette nouvelle soulagerait normalement les investisseurs. Hélas, cette rumeur s'accompagne de l'information selon laquelle de nouveaux droits de douane seront bientôt imposés au secteur de la pharmacie et des semi-conducteurs. On note la chute de plus de 2% du cours de Boeing. Le gouvernement chinois interdit aux compagnies chinoises d'accepter la livraison d'avions Boeing. Il s'agit bien sûr d'une riposte aux droits de douane massifs imposés aux produits chinois par Washington. Amazon et Nike, deux autres sociétés qui vont souffrir des surtaxes massives frappant tout ce qui vient de Chine, figurent avec Boeing en tête des reculs parmi les 30 valeurs du Dow Jones. Le baril de pétrole américain recule marginalement mais reste au-dessus de 61$. L'euro retombe à 1,1287$. Aujourd'hui, le Dow Jones rend 0,4% et le Nasdaq cède moins de 0,1%.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
En Côte d'Ivoire, le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont claqué la porte de la commission électorale indépendante qu'ils accusent de partialité. Que vous inspire leur décision? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.